PME Magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Olivier Taburet, CFO intérim et spécialiste en management de transition. Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling. On écoute.
Olivier Taburet, j'ai 55 ans, je suis directeur financier après une évolution depuis le contrôle de gestion dans les années 90 jusqu'à la direction financière de multinationales. J'exerce depuis 10 ans en directeur financier intérim. Alors un cadre intérim, c'est quelqu'un qui va être là pour un temps donné, le temps de réaliser des objectifs pour une transition. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est pas un monde stable où on fait la même chose du 1er janvier au 31 décembre et 5 ans de suite. L'entreprise, elle est soumise à son écosystème, à des chocs, à la disruption, comme tous les autres métiers. Ce qui veut dire qu'un directeur financier qui peut être adapté à un certain moment ne l'est pas 18 mois après, parce que l'entreprise est dans une phase complètement différente. En fait, c'est simplement reconnaître qu'on ne peut pas être la bonne personne tout le temps, et que dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de sa performance propre, il y a un intérêt à changer très souvent pour renouveler ses expériences, étendre son réseau, être confronté à différentes problématiques sur les leviers économiques, etc. Et toujours intervenir, là on est le meilleur.
Mais quel est le rôle d'un CFO en 2021 ?
C'est un gardien de l'exécution des opérations de l'entreprise comme un gardien de la stratégie. Et pour être le gardien des deux, il doit être un architecte de création de valeur sur des indicateurs avancés. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, aussi de l'écoute des données. Est capable, en fait, si on pourrait remonter au physiocrate du XVIe siècle, il y avait une comparaison entre la circulation du sang et des fluides dans le corps, la circulation des biens en économie. Et finalement, le financier, c'est quoi ? C'est un mix entre l'infirmière, le laborantin et le docteur. Il prend les flux, il analyse les données, il voit ce qui ne va pas, il recommande des prescriptions de médicaments. Ouais. Donc maintenant, ça s'est fait à la puissance du data science et du big data qu'on peut avoir, quoi. Le directeur financier devient un architecte qui gère un nombre d'indicateurs avancés, qui sont des indicateurs financiers, des indicateurs opérationnels ou des indicateurs de Google Analytics, si c'est nécessaire dans un métier particulier. Et il va brasser ça et donner des alertes et rentrer dans la gestion des risques, parce que ce qu'on lui demande, ce n'est pas de gérer la performance des 3 prochains mois. C'est dans un monde de plus en plus incertain et compliqué d'organiser une performance à long terme qui va fonctionner. Et donc de mettre les bons leviers en place, d'anticiper. Et donc ça ne peut pas se faire en étant seul. Et ça ne peut pas se faire sans une organisation déléguée qui permette de faire remonter plein de signaux. Il y a une étude de McKinsey de 2018 qui a montré que, sur 400 répondants, qu'en fait, le nombre de fonctions complémentaires qu'embarquaient les CFO était en augmentation. Il y a 3-4 ans, c'était 4 fonctions en plus de la fonction pure finance. Et maintenant, c'est monté à 6. Ça fait quand même 50% d'augmentation. Mais l'idée, c'est pas de dire le CFO plénipotentiaire peut tout faire. L'idée, c'est de dire le CFO est au cœur des fonctions opérationnelles clés du métier, la R&D, la production, la commercialisation, etc. Mais il est aussi au cœur des fonctions régaliennes de support, que sont la finance, le juridique, la RH, l'IT, etc.
Le CFO, c'est finalement le vrai patron ?
Des fois, on se pose la question. Ça dépend des contextes d'entreprise. Il y a des CEO qui doivent être extrêmement orientés vers l'extérieur, et évangéliser sur des lignes de produits nouvelles, imaginons Tesla. Je ne sais pas s'il a beaucoup de temps pour gérer l'interne. Et du coup, qui devient le bras droit qui va gérer la performance d'exécution à l'interne et puis le complément de la stratégie, c'est souvent le CFO.
Selon les compétences, est-ce que vous proposez aux entreprises d'avoir 2 CFO ?
Et oui, on peut avoir de la direction de programme particulier On ne peut pas demander au CFO d'être le meilleur fiscaliste le matin, le meilleur trésorier l'après-midi, le meilleur partenaire stratégique le soir, et puis piloter les filiales asiatiques à distance quand il lui reste du temps. Donc il y a un rôle d'homme orchestre, il y a un rôle d'organiser l'exécution du business, il y a un rôle d'accompagner la stratégie du business, mais ça se fait de manière déléguée. Derrière, il y a des experts, derrière, il y a des centres de compétences, il y a des centres de services partagés, il y a des choses qui sont de plus en plus automatisées.
Quelles sont les problématiques de recrutement des CFO ?
Alors déjà, nous, on n'est pas spécialisés dans un recrutement pur long terme. Justement, reconnaissant ces tendances de marché et les besoins des entreprises, on s'est spécialisé dans des gens qui vont raisonner sous forme de projet, de programme. C'est j'arrive 18 mois pour transformer la fonction logistique sur une dizaine de sites d'une entreprise. J'arrive pour digitaliser ou faire un lien entre la R&D et l'informatique dans une grande boîte d'ingénierie à Lausanne. Là, ce matin, on m'a parlé de déployer un modèle informatique pour une douzaine d'endroits de logistique entre l'Inde et le Moyen-Orient. Voilà. Donc ça, c'est un job projet. Donc il y a besoin à un moment donné d'un champion du monde pour 12, 18 mois, 24 mois. Il doit arriver comme un couteau suisse avec tous les bons réflexes. Et c'est plug and play, c'est-à-dire qu'on met un directeur financier intérim, au bout de 3 jours, il est chez lui, il a compris les grands équilibres, il commence à poser des questions, il commence à amener des petites améliorations tout en réfléchissant à quelles sont les grandes améliorations dont l'entreprise a besoin. C'est un peu « je suis en vol, mais je bricole le moteur ».
Est-ce un avantage de ne pas connaître une entreprise pour une mission intérimaire ?
Oui, ça a des avantages au sens où on a une liberté de parole. On n'a pas les anciens camarades de jeu, des gens à qui on doit des retours d'ascenseur, etc. Et on amène son bagage. Donc il y a aussi un peu de consulting indirect en disant « Attendez, j'ai vu des choses qui fonctionnaient bien dans ce cas-là ailleurs. On peut les répéter rapidement. J'ai vu le film 3 fois, on peut le faire une 4e fois. » Donc ça, c'est l'avantage de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va penser court terme. Justement, on est peut-être là pour mettre en place des projets long terme. Et peut-être l'organisation du long terme, c'est des vagues successives de court terme qui chacune amène de la valeur ajoutée différente et qui construisent. Et si on n'a qu'une personne qui a qu'une proposition de valeur à faire, au bout de 18 mois, elle est essoufflée, elle a donné ce qu'elle avait à donner, elle ne peut pas se renouveler, elle n'est plus en contact avec l'extérieur et l'écosystème pour amener des nouvelles choses, donc le modèle va perdre en valeur. Il faudra peut-être avoir une nouvelle vague avec un profil différent.
Mais est-ce que votre modèle y préfigure l'avenir ?
C'est pas qu'on prêche pour ça, mais ça vient chez nous et on le voit. Il y a de plus en plus de CFO, mais pas que de CFO, hein, de C-level ou de cadre de direction, qui s'organisent sur 2 dossiers. Parce qu'ils d'abord, ils estiment que ça dérisque leur profil. Si je mets comme un mauvais paysan tous les œufs dans le même panier, il va se passer quelque chose, une transformation, un rachat, une délocalisation d'entreprise. Et là, je me suis coupé du monde pendant X années et je me retrouve sans rien. Si je suis sur 2 dossiers, il y en a toujours un qui est en montée en puissance, l'autre qui arrive un peu en bout du modèle. Je sais qu'il faut que je cherche le deuxième et je roule entre deux modèles. Moi, je conseille souvent aux directeurs intérim qui sont des slasheurs de rester à 2 dossiers parce que franchement, 3 agendas, on devient un peu schizophrène. Hein. Mais 2, c'est tout à fait gérable. Donc, il y en a qui inventent leur employabilité ainsi. J'ai même des CV où les gens ont des graphes avec des couleurs et on voit qu'ils sont à 40% sur un dossier pendant 12 mois, puis c'est descendu à 20, puis il y a un autre qui est arrivé qui est à 70, et puis ça redescend à 30, et ils montrent leurs 5-6 dernières années comme ça avec un graphe.
Quelles sont les questions et les attentes des chefs d'entreprise qui recherchent un ou une CFO temporaire ?
En général, quand ils appellent, ils ont un agenda bien clair. Puis ça a un certain coût, parce qu'il y a aussi le coût de la flexibilité de la personne. Donc il faut que ça drive de la valeur. Si c'est juste pour remplacer quelqu'un, se mettre dans ses chaussons, sous son bureau et rien changer, c'est pas la peine. Donc en fait, quand il nous appelle, il a un cas bien précis. Ça peut être « j'ai perdu mon directeur financier et je suis en train de préparer une acquisition. Il me faut quelqu'un qui aille au moins jusqu'au bout du dossier pendant que j'invente le long terme. » C'est pas rare qu'on démarre une mission avec un cadre financier de transition relativement surqualifié Et pendant ce temps-là, l'entreprise va utiliser ce temps pour générer de la valeur et puis recruter quelqu'un plus tard qui sera d'un niveau un peu moindre, mais qui va gérer la routine. Et donc là, la société, elle a le meilleur des deux mondes. Elle a le transformateur quand elle en a besoin, et elle a la personne pour faire du farming, on va dire, quand elle en a besoin.
Comment et pourquoi votre modèle favorise la réinsertion des cadres seniors ?
Moi, j'avais commencé comme ça, hein, à 45 ans, après avoir redressé et développé un bon business. On nous a tous remerciés en nous disant « on va le gérer depuis les États-Unis, ça sera super ». Et puis j'ai commencé comme ça à faire une mission, puis deux, puis trois, etc. Donc certes, il peut y avoir un effet de reclassement. Maintenant, ce n'est pas tout cadre senior au chômage qui peut devenir manager de transition. Les critères d'attitude sont extrêmement demandeurs. C'est d'abord le directeur sac à dos, hein, parce que les missions ne sont pas toujours au bout de votre rue. Hein, donc le commuting hebdomadaire est quand même la norme dans ce métier. La deuxième chose, c'est qu'on peut changer de culture dans certaines limites. Le plus difficile, c'est de changer de taille d'entreprise. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous réinventer nécessairement d'une PME à une start-up ou d'une start-up à une multinationale. Et donc, ça crée quand même certaines limites. Mais il est évident que les cadres qui ont, on va dire, 50 ans et plus, ils ont un bagage qui est fortement utilisable. Ils ne cherchent plus un titre, ils ne cherchent peut-être même plus la meilleure rémunération. Ils cherchent à utiliser leurs compétences et les mettre au service d'un projet et avoir du fun. Et le meilleur levier, c'est quand même celui-là. Et ils alternent des périodes extrêmement intenses. Là, je pense à un directeur financier qui est plutôt axé trésorerie, qui a fait un projet d'un an qui finalement en a duré 4. Bon, ben, il l'a fini, il était épuisé, mais après, il a pris 6 mois de vacances. Et donc, ces gens s'organisent une vie entre des activités humanitaires et des périodes de mission, des activités de vacances et des périodes de mission. Et ça devient un rythme de vie différent et principal.
Qui sont vos clients ?
Les clients, il y a de tout. Ça va de la filiale de multinationale à la grande PME, à la petite PME, à la start-up. Les organismes étatiques sont aussi consommateurs, les États cantonaux, certaines grandes communes, la ville de Lausanne, l'ETL, les TPG, enfin, les grandes régies, jusqu'aux ONG. Les clients sont extrêmement exigeants sur les expériences qui doivent correspondre à leur période de transformation. Il faut vraiment avoir du plug and play et avoir des expériences correspondantes. Alors des fois, on les encourage, hein, à dire faut pas, on va pas prendre une imprimante 3D puis vous cloner votre précédent CFO parce que ça va peut-être pas amener assez de diversité. Donc il y a des clients assez courageux qui vont se décaler un petit peu puis en tirer tout le bénéfice. Mais généralement, quand on veut un CFO pour faire une introduction en bourse, on va lui demander qu'il en ait déjà fait deux, quoi. Ou si on veut faire une intégration d'une acquisition, on va lui demander d'avoir fait une intégration d'acquisition. Ou si on lui demandait de changer un modèle de distribution, on va demander ce qu'il a fait dans la distribution.
La crise actuelle liée à la pandémie légitime-t-elle votre modèle ?
Oui, mais il faut distinguer le fait que ça évoque des vocations. Mais il faut être assez clair et pas laisser les gens aller dans cette voie si ça ne leur correspond pas. Alors pour ça, on a les processus d'interview, on a des formations. J'ai mis en place un jeu de simulation stratégique qui se fait sur une journée. On voit les gens travailler en équipe de 4, en collaboratif et en compétition avec d'autres équipes, en compétitif. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on les connaît, les managers. Et on va leur dire un peu si on pense qu'on peut faire des choses avec eux ou pas, ou s'ils doivent plutôt retourner sur le marché classique du recrutement en fixe.
Quel est le profil des CFO qui viennent vous voir ?
En fait, on voit un rajeunissement aussi avec la crise, pour continuer sur la question précédente. Il y a toujours eu des fonctions, comme par exemple le marketing, où les managers de transition sont plus jeunes et où c'est plus segmenté, etc. Mais sur la direction financière, et sur toute l'Europe, parce qu'on a des statistiques aussi avec des partenaires européens. Moi, quand j'ai ouvert Procad en 2014 à Genève, l'âge moyen européen, c'était 53,7. Maintenant, je crois que c'est juste 50. On voit une tendance quand même de rajeunissement et on voit une tendance de flexibilité partout. Le travail posté dans une seule entreprise, ça vient du taylorisme, et quand il y avait des lignes de production, une usine, il fallait être à l'usine. Hein. Maintenant, un directeur financier, entre un portable et un PC et le cloud, il peut travailler n'importe où, être efficace sur un ou deux dossiers dans la même journée. C'est Stéphane Benoît Godet qui avait écrit dans le magazine Bilan 2014 qu'un cadre freelance avait le même niveau de compétitivité d'infrastructure qu'une grande multinationale et que ça allait révolutionner le travail. Je m'en souviens parce que c'est la semaine où j'avais ouvert Procadre, c'était dans le magazine.
Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et contre-ligne.